il est 8h23 à Paris sur RFI. C'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire, puisque c'est dimanche, la piste islamiste dans l'attentat de Jouer les Tours en France.
Oui, c'est en effet celle qui est privilégiée par la presse écrite dominicale française au lendemain de l'agression au couteau dans un commissariat dans le centre de la France. Qui est l'islamiste de Jouer les Tours, lance en effet en une le journal du dimanche. La piste islamiste rehausse le Parisien dimanche en première page. L'agresseur, qui a été abattu par un adjoint de sécurité du commissariat, était un jeune homme de 20 ans d'origine burundaise et converti à l'islam. Il a agi au cri d'Allah Akbar, prononcé jusqu'à son dernier souffle, souligne le Parisien dimanche. Et l'enquête a été notamment confiée à la sous-direction antiterroriste de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, rehausse le journal. Impossible de ne pas faire le lien entre tentative de meurtre d'hier et les appels récurrents lancés via YouTube depuis la Syrie et l'Irak par les djihadistes de l'Organisation de l'État islamique, insiste le journal du dimanche. Parmi les jeunes rencontrés par le JDD, tous confirmaient hier la conversion à l'islam de Bertranzo Abonayo, c'est le nom de ce Français, né au Burundi en 1994, précise l'hebdomadaire, et dont le frère, prénommé Brice, avait été fiché comme islamiste radical. Ce dernier se trouverait actuellement au Burundi, énonce encore le JDD.
Mais les élections en France, par crainte d'une défaite de la gauche, François Hollande pourrait bien en modifier le calendrier.
Étant rappelé que les élections régionales sont prévues en décembre 2015, elles devraient être avancées par le président, annonce le journal du dimanche. Motif, faire place nette à la grande conférence internationale sur le climat prévue à la même date à Paris. Elle pourrait avoir lieu en octobre 2015, confie une source gouvernementale au JDD. François Hollande anticipe une défaite aux prochaines élections départementales et régionales, complète le journal. Ballon d'essai par voie de presse ou vraie chronique d'une défaite annoncée, affaire à suivre. Comme la cote de popularité de François Hollande, qui est en hausse de 4 points dans le baromètre de décembre réalisé par l'IFOP pour le JDD. 17% des Français se disent à présent satisfaits du président et 82% en sont mécontents.
Dans la presse, Norbert, on a beaucoup parlé de la crise économique et de la chute du rouble en Russie cette semaine. Mais paradoxalement, cette crise est loin d'affaiblir Vladimir Poutine, bien au contraire.
Après avoir fait main basse sur la Crimée, la Russie est la cible des Occidentaux qui, craignant sa récidive en Ukraine, lui infligent des sanctions mettant à mal son économie. Cette semaine, Vladimir Poutine, droit dans ses bottes, a tenu conférence de presse pour dire tout le mal qu'il pensait des Occidentaux. Comment ce joueur d'échecs peut-il continuer à se sentir si puissant malgré la crise ? Élément de réponse à lire cette semaine dans Courrier International, qui consacre un dossier à ce qu'il appelle l'OPA de Poutine sur l'Europe et dans lequel on trouvera un article de Rouski Journal qui lève le voile sur cet apparent paradoxe. Ce journal russe explique en effet que les sanctions contre les dignitaires russes proches de Poutine ne les ont pas dissuadés de soutenir le tsar du Kremlin, mais qu'au contraire, elles les ont soudés. Les intéressés savent très bien en effet que les sanctions personnelles à eux infligées ne seront jamais levées, même après la levée des sanctions économiques. Leur conflit personnel avec les États-Unis exclut pour eux possibilité d'un avenir politique après le départ de Poutine. Autrement dit, ils sont contraints de soutenir le pouvoir de Poutine jusqu'à la mort, expose Rouski Journal dans Courrier International.
La crise économique qui préoccupe la Russie est surtout provoquée par la chute des cours du pétrole. Alors, cette question, Norbert, jusqu'où baissera le prix de l'or noir ?
Malgré les crises qui touchent plusieurs grands pays exportateurs de pétrole, comme la Libye ou l'Irak, les cours du baril sont en effet en chute libre. Un phénomène qui devrait durer, estime Daniel Yergin, vice-président de l'agence d'intelligence économique IHS, qui s'exprime dans la revue. D'un côté, on assiste à une montée des crises géopolitiques. De l'autre, à l'augmentation massive des stocks d'hydrocarbures. Bien que les écologistes critiquent l'exploitation des gaz et pétrole de schiste, Daniel Yergin confirme que cette nouvelle source est aujourd'hui une réalité tangible, énonce-t-il dans le périodique. La production américaine de brut est de 3 900 000 barils supplémentaires par jour, à quoi il faut ajouter le million de barils quotidiennement extraits des gisements du Canada. La production quotidienne des pays non membres de l'OPEP, qui selon IHS aura progressé de quelque 1 700 000 barils cette année. Et puis la Libye, qui, même si elle reste plongée dans le chaos, a quadruplé sa production durant l'été 2014. C'est ce qui explique la baisse actuelle des cours du carburant sur le marché, expose Daniel Yergin. Et de toute évidence, pour lui, les Américains sont les grands gagnants dans cette histoire. Le Japon et la Chine, qui dépendent entièrement des importations de pétrole, sont aussi deux grands bénéficiaires de la baisse des cours. À l'inverse, la Russie et l'Iran observent le phénomène avec une inquiétude croissante. Et certains avancent l'idée que la baisse des prix est orchestrée par les Américains et les Saoudiens dans le but d'affaiblir les régimes de Moscou et de Téhéran. Quoi qu'il en soit, les questions dès lors sont bien de demander jusqu'où le prix du baril est susceptible de baisser. Question à ce jour sans réponse.
Et autre question, Norbert, comment faire en sorte que le prix ne tombe pas trop bas ?
Comme toujours, le seul pays qui ait le pouvoir de moduler sa production pour équilibrer le marché mondial, c'est l'Arabie Saoudite. Avec 800 milliards de dollars de réserves en devises, elle peut se permettre de diminuer ses exportations, estime encore Daniel Yergin dans la revue. Mais combien de temps acceptera-t-elle de limiter unilatéralement sa production pour permettre à l'Iran et à l'Irak ou à d'autres de lui prendre des parts de marché? C'est toute la question, une question à plusieurs centaines de milliards de dollars.
Merci Norbert Navarro. On vous retrouve dans quelques minutes pour la Une de Jeune Afrique.